Le 5 novembre 2018, l'effondrement de deux immeubles rue d'Aubagne provoque la mort de 8 personnes. 6 ans plus tard, les propriétaires, bailleurs, syndics, experts, élus, sont jugés pour leur inaction malgré les signalements répétés sur le délabrement des bâtiments. Depuis le début du procès, le 7 novembre, des greffiers populaires sont présents et prennent des notes. Des crieurs et crieuses publiques racontent le procès chaque semaine, les mercredis à 17h à l'angle Belzance-Canebière et à 17h45 place Halle de la Croix, les vendredis de 17h à 17h45 sur la Plaine et les samedis à 11h et 11h45 place Cadena. L'enregistrement qui suit a été pris lors d'une criée publique.
Le procès de l'habitant indigne.
Épisode numéro 3.
Le procès du multipropriétaire indigne.
Ça fait 6 ans que les immeubles se sont effondrés.
Le procès du syndic indigne.
Que répondre Xavier Cachard, le cabinet Lyotard, Jean-François Valentin, Richard Carta. Que nous racontent les familles des victimes. Approchez, approchez! C'est l'heure de la criée publique!
Venez soutenir les familles du lundi au vendredi à la caserne du 8 de novembre à 19h! Mesdames et messieurs, nous sommes les crieuses publiques! Nous sommes ici pour vous raconter la troisième semaine, semaine après semaine, des effondrements des immeubles de la rue d'Aubagne! Qui ont eu lieu à Noailles le 5 novembre 2008, car ce n'est pas la pluie qui était responsable. Le procès à la caserne du Muy a débuté le 7 novembre au tribunal de Marseille. En voici le récit.
Résumé des épisodes précédents. Depuis le début du procès, le 7 novembre 2024, des experts se succèdent à la barre pour raconter l'historique des 63, 65 et 67 de la rue d'Aubagne. Ils tentent de faire émerger un scénario des effondrements. Ils sont rejoints au tribunal par les parties civiles, c'est-à-dire les proches des victimes et des familles qui retracent les parcours de vie et les dernières heures de Taher, Julien, Simona, Marie-Emmanuel, Fabien, Thierry, Papé et Ouloumé disparus sous les décombres. A noter que peu de prévenus assistent au procès. On apprend aussi que la plupart des propriétaires n'ont pas voté lors des assemblées générales les travaux indispensables à l'entretien des immeubles. Épisode 3.
Faites entrer les dérangés.
Récit du procès du 18 au 25 novembre.
Lundi 18 novembre, en ce moment au tribunal, place est faite au récit des familles, des victimes, aux explications des propriétaires, aux fissures qui s'aggravent et à l'engagement citoyen des quartiers. Kevin Vacher, à la barre, affirme.
Les élus savaient.
Ils parlent au nom du citoyen, au nom du collectif du 5 novembre, créé spontanément à l'appel des citoyens dans la soirée du 7 novembre 2018, rue de l'Arc. Il s'est tout de suite engagé dans la lutte contre l'habitat indigne.
Il y avait une colère ce soir-là, car les élus savaient que ces immeubles étaient dégradés. Des études, des chiffres et des diagnostics sur l'habitat indigne leur avaient été présentés lors de réunions et dans les médias. Lors de toutes les réunions que l'on a organisées avec notre collectif, Monsieur Ruas, assis derrière moi, refusait de participer. On s'est toujours retrouvé face à des murs, face à la négation de ce que les gens vivent.
Jingle ! Vous assistez au troisième épisode du procès de la rue d'Aubagne. Mardi 19 novembre. Le tribunal continue d'auditionner les familles des victimes et les propriétaires des appartements. Les quatre enfants, désormais orphelins à Touloumé, sont venus éclairer le parcours de cette mère de famille. Ils ont raconté une vie précaire dans un logement dégradé, mais une cellule familiale heureuse, désormais anéantie. Elle a mis le plus jeune fils, fête ses 15 ans, ce mardi 19 novembre. Au moment de la catastrophe, il était âgé de 8 ans.
Je voulais dire que ma mère, elle me manque. Ça fait bizarre de vivre sans elle.
Le président Pascal Gant tente de le consoler.
C'est normal de pleurer. Tu sais, depuis vendredi, beaucoup de gens pleurent ici. Sa mère l'a déposée à l'école à 8h30, puis est retournée chez elle. Elle monte chercher sa pochette de documents en vue d'un rendez-vous pour trouver un nouveau logement. Le moment où elle a franchi la porte, l'immeuble s'est effondré. Chloé, l'ancienne institutrice d'Elamine, témoigne.
C'est important de dire à quel point ça a été une violence inimaginable. Il est parti le matin avec son cartable et il est rentré le soir. Il n'avait plus rien. Plus de maman, plus de vêtements, plus de photos, plus rien. Elamine lui a laissé des messages pendant plusieurs jours en espérant qu'elle allait répondre.
Louloumé ne répond pas. La professeure des écoles recueille l'enfant quelques jours chez elle. Elamine, traumatisée, se retrouve en grande difficulté à l'école, conséquence directe du drame.
Ça l'a empêché de faire certaines études. Suite aux effondrements, il disait qu'il voulait être architecte ou footballeur, affirme Chloé. La famille de Louloumé n'a pas été relogée par un propriétaire, Gilbert Ardili, qui est pourtant prévu par la loi. Il n'envoie aucun message, aucun appel à la famille. Il estime avoir toujours fait les travaux qu'il fallait faire.
On a revu la peinture, la cage d'escalier, les boîtes aux lettres. On n'avait pas de raison d'être inquiet. Après les effondrements, Gilbert Ardilly continue à toucher la CAF et n'a toujours pas aujourd'hui rendu la caution à la famille.
Le procureur s'emporte. Si vous avez votre séquier, c'est toujours le moment. Si vous avez votre séquier, c'est toujours le moment. Mercredi 20 novembre. Jingle.
Mesdames et messieurs, nous vous répondons le récit du procès des effondrements de la rue de Bagne.
Mercredi 20 novembre, Taher et Shérif ont péri dans l'appartement de Rachid le 5 novembre. Ils étaient hébergés chez lui. Lui, il s'en est sorti parce que quelques minutes avant l'effondrement, il est sorti acheter des cigarettes.
Heureusement que je fume des cigarettes.
Il avait dit aux enquêteurs. Il est décédé il y a 2 mois. Sa mère est venue témoigner notamment de la solidarité entre les voisins du 65.
Puis, Linda, la cousine de Shérif, commence à raconter son errance en braille avec sa mère durant plusieurs mois après les effondrements. Un homme tombe dans ses bras.
Je suis désolée, ma sœur. C'est moi qui aurais dû mourir. Il a dormi dans mon appartement.
Cet homme, c'est Rachid. Lorsque les pompiers extraient le corps de Shérif, on retrouve sur lui un petit briquet avec écrit dessus « I love Marseille ». Sa cousine dira
« C'est Marseille qui l'a tué. »
Shérif laisse derrière lui une petite fille de 10 ans qui vit aujourd'hui en Algérie.
Puis s'avance à la barre la sœur de Taher, venue de Tunisie pour le procès. Taher avait quitté son pays il y a plus de 20 ans, était passé par l'Italie, puis était arrivé à Marseille en 2014.
Rida, encore un rescapé qui continue d'apporter aujourd'hui la rue de Bagne, veut témoigner.
La porte de Houloumé ne fermait plus. J'ai essayé de la réparer. Le mur du rez-de-chaussée s'est effondré. Les pompiers sont venus. Ensuite, des ouvriers ont mis un parpaing.
Jusqu'à là, dans l'enquête, son nom n'apparaissait nulle part.
C'était à ma demande. J'avais peur de la police. Je suis clandestin.
Explique Reda. Maintenant, place au plus célèbre des propriétaires du 65 rue de Bagne, Xavier Cachard. Il achète l'appartement fin 2011, sans le visiter.
sa société possède 2 autres logements à Noailles, rue du Musée et rue de la Palue.
Il est aussi avocat du syndic Lyotard, celui qui gère le 65 rue d'Aubagne. D'emblée, il prétend que les problèmes signalés ont été réglés.
Il faut arrêter de dire qu'il n'y avait aucun entretien. Sur le ménage, on était à 9 000 euros. En travaux, on était à 45 000. Donc, de dire qu'il y avait un abandon total, vous verrez des cages d'escalier refaites, vous verrez des factures de peinture.
Remarque de Brice Grasini, avocat des parties civiles. Il y a eu 40 000 euros de travaux dans la copropriété sur 10 années. Cela fait 375 euros par mois pour l'ensemble de la copropriété, soit moins de 50 euros mensuels pour chaque propriétaire.
Jingle !
57 euros mensuels par propriétaire, par mois.
Jeudi 21 et vendredi 22 novembre, place au témoignage des voisins et aux délogés. Maëlle et Émilie, militants du collectif du 5 novembre, sont à la barre. Ils étaient propriétaires et occupants du 5e étage du 69 de la rue d'Aubagne. Le 7 novembre, ils apprennent qu'un arrêté ordonne la démolition de leur immeuble. À la mairie des 1-7, quand on s'y présente, dit Émilie, une personne m'a dit que je n'étais pas une vraie délogée et a demandé à un vigile de me sortir manu militari. C'était très violent. Les manifestations contre l'habitat indigne nous ont donné beaucoup de courage, malgré la répression policière violente avec des gazages à Noailles.
On n'oublie pas Zineb Redouane.
Comme eux, des centaines de délogés se retrouvent démunis et sans aide. Une assemblée des délogés de Marseille est créée peu de temps après.
Virginie, Frédéric, Yanis, Yamina, Assimina, Sofia et plusieurs autres voisines et voisins délogés se souviennent. De ma fenêtre, je voyais cette banderole. Marseille, habitat, rénove votre quartier.
Je dormais, à gros bout de ma réveillée. Mon père a déboulé dans ma chambre. On est sorti dans la rue en pyjama et en claquette avec ses nuages de poussière.
Une personne de la mairie est venue dans la salle du petit déjeuner de l'hôtel où nous étions hébergés après le délogement. Elle nous a annoncé que notre immeuble avait été déconstruit. On a perdu toutes nos affaires, toute notre vie, notre identité.
Les petits déjeuners ont été supprimés parce qu'on pensait qu'on était des profiteurs.
J'ai été stupéfaite de constater le mépris avec lequel nous avons été traités. Malheur à celles et ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue française.
Heureusement que c'était la rentrée, que les enfants étaient partis à l'école. Sinon, il y aurait plus de défauts.
Quel est le premier courrier que vous recevez ?
Demande le tribunal à une délogée.
Mon assureur Groupama m'annonce qu'il supprime la garantie effondrement.
Puis arrive Frédéric Tianan, un voisin, qui envoie plusieurs mails dès le 17 juillet 2018 à Camille Galtier, collaborateur à la mairie des 1-7. Sans doute attendez-vous qu'un drame arrive, alarme-t-il. Camille Galtier, aujourd'hui maire de Manosque, lui répond alors « Sortez de votre nombrilisme !» et l'accuse de mensonge et de calomnie.
Jingle ! Avocats et partis civils prennent la parole. Francis Vernet de la Fondation Abbé Pierre.
Le dénominateur commun entre tous les propriétaires d'habitat indigne, c'est de ne pas envisager ce que signifie être propriétaire, notamment ce que cela coûte en termes d'entretien.
À Marseille, un habitant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. C'est autant de personnes qui risquent de vivre dans un habitat indigne où un événement grave peut survenir.
Puis arrive Julien Delas, ancien adjoint de Gaudin, responsable de la prévention des risques. Il défend sa gestion.
Nous n'avions pas prévu de faire face au délogement de milliers de personnes. Dans notre société, on attend tout des pouvoirs publics. Vous nous dites que les gens se sont retournés vers la mairie, mais c'est normal, non? Pointe le président.
Oui, bien sûr. Admet Julien Ruas.
D'ailleurs, la ville de Marseille a souhaité se porter partie civile dans ce procès. Ce qui veut dire qu'elle estime que le drame lui a causé un préjudice et qu'elle est en droit de réclamer réparation. Quel est pour la ville de Marseille le préjudice?
Aujourd'hui, il y a plusieurs évacuations par mois, par semaine. C'est toujours 1500 personnes délogées, dont 1100 pris en charge par la mairie. C'est avant tout un préjudice moral pour la ville. Il y a aussi le préjudice du manque de moyens pendant des années. Annonce Florent Houdemont, représentant du maire et directeur du logement et de l'habitat indigne.
C'est donc le préjudice moral et d'image qui est central pour vous, devant le président du tribunal.
C'est donc le préjudice moral et d'image qui est central pour vous, demande le président du tribunal. Nous demandons 1 euro au titre du préjudice moral et d'image, mais nous assurons aux victimes le parfait soutien du maire.
Ce soutien pourrait-il être matériel?
Je suis responsable de l'habitat indigne. Je n'ai pas de réponse sur ce point.
Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas parce que l'équipe municipale a changé que la ville de Marseille ne peut pas être poursuivie en justice pour actes antérieurs. Déjà.
Un euro, le préjudice.
Lundi 25 novembre, aujourd'hui à la barre, Richard Carta, expert à la ville de Marseille et responsable de la dernière expertise juste avant le drame.
Richard Carta est expert depuis plus de 10 ans. Des logements insalubres, il en a vu Saint-Laurent, Le Panier, les quartiers nord, il dit.
Les témoignages m'ont bouleversé. Je n'étais pas conscient de l'étendue de cette détresse et je veux assurer les familles des victimes de ma compassion.
Richard Carta était présent au premier rang tous les jours du procès depuis son ouverture.
Outre les victimes et la famille du 65, je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de victimes collatérales. C'est extrêmement violent. Le délogement systématique n'était pas pour moi envisageable. Pourtant, c'est très confortable pour un expert de déloger et de ne pas prendre en considération les véritables drames qui se jouent. Puis, il suit Jean-François Valentin, gestionnaire du 65 rue d'Aubagne pour le syndic Lyotard, absent depuis le début du procès pour raison de santé, fait son retour au tribunal. Jean-François Valentin dit qu'il gérait 127 copropriétés.
C'était un travail à la limite de l'humain.
Depuis 2016, les dossiers n'étaient plus suivis par le cabinet Lyotard pour de multiples raisons. Il raconte son arrivée dans le 65 rue d'Aubagne.
J'ai vu une cage d'escalier pourrie. Je n'ai pas parlé aux locataires. Je me suis entretenue avec les copropriétaires. Quand je suis entrée dans l'appartement du premier étage, j'ai vu l'eau ruisseler sur le plancher, créant un trou. J'ai dit aux locataires, appelez votre propriétaire pour faire réparer ça. Puis j'ai eu des instructions pour ne pas lâcher les copropriétés. On avait un mandat de gestion.
Il mentionne d'ailleurs également une amitié intime entre son patron et Xavier Cachard, propriétaire et avocat du syndic. Grosse révélation du jour, car personne n'était au courant au tribunal.
L'après-midi, plusieurs personnes viennent témoigner au nom de Marseille Habitat, propriétaire du 63 rue d'Aubagne.
Des mis en examen autant que des témoins. Ils viennent raconter leur lien avec la municipalité. L'amoncellement des témoignages confirme les doutes et les manquements de Marseille Habitat dans cette affaire. Leur principale excuse, le manque de moyens. En cette fin de journée du lundi, nous entendons Arlette Fructus, Jean-Pierre Chanal et Claude Bertrand, anciens responsables municipaux lors des mandats de Jean-Claude Gaudin. Avec des termes techniques et juridiques, ils tentent d'amoindrir la responsabilité de la précédente équipe municipale. Ils rappellent que les arrêtés de péril sont des dossiers techniques et que pour le citer, il faut avoir les compétences adéquates pour le comprendre. Cependant, ils estiment qu'un élu ne doit pas avoir trop de compétences, sinon il va se prendre pour un chef de service.
Un élu ne doit pas avoir trop de compétences, sinon il va se prendre pour un chef de service.
Le président du tribunal résume avec cette phrase. Donc, on ne veut pas d'élus trop compétents à la ville de Marseille.
Fin de l'épisode numéro 3, suite du procès de la rue d'Aubagne, au prochain épisode. Nous vous rappelons que le procès est public, que vous pouvez y assister tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 9h, en vous présentant à la caserne du Nuit, rue Bugeaud à la Belle-Vallée.
Nous vous rappelons que les crieuses publiques racontent le procès tous les mercredis à 17h, angle Calbière, Courbelsas, et 17h45, place des Halles de la Croix à Noailles.
Tous les vendredis à 17h à la plaine et à 17h45.
Et tous les samedis à 11h et 11h45 sur la place Cadena à la Belle de Mai.
Vous venez d'écouter une criée publique racontant le procès des effondrements de la rue d'Aubagne. Des crieurs et crieuses publiques racontent le procès chaque semaine, les mercredis à 17h à l'angle Belzance-Canebière et à 17h45 place Halle de la Croix, les vendredis de 17h à 17h45 sur la plaine et les samedis à 11h et 11h45 place Cadena. Vous pouvez aussi assister au procès à la caserne du Muy, 21 rue Bugeaud, du lundi au vendredi jusqu'au 18 décembre.